une noix d'une chose humide et molle. Il arracha ça et il le jeta dans la boue, il toucha sa manche, elle était toute poisseuse. « Ça doit être la maison, » dit le capitaine. C'était au bord de la route, une passe plus sombre que la nuit. Il frappa dans la porte à coups de pied. Les coups bourdonnèrent là-bas dedans des casseroles et des chaudrons. On bougea des chaises à l'étage, le volet s'ouvrit. Et alors, demanda une voix de femme, « Capitaine Viron du 15-9 et deux hommes, on voudrait se reposer ?»« Je vas et j'ouvre, » dit la femme. C'était une vieille femme en caraco de nuit, elle cachait la bougie derrière sa main. « Entrez seulement et vite que ça se voit de par la porte, il faisait tiède là-dedans. » Ça sentait l'air respiré, ça sentait la lessive et l'évier, ça sentait le cheveu gris et la peau épaisse de la femme. Elle avait des mains de laveuse toutes plâtrées par l'eau. Le capitaine ouvrit ses bras en croix. « Ah !» il soupira. « C'est tout ?» demanda la femme en montrant les deux hommes. « C'est tout !» dit le capitaine. « Puis si tu avais des œufs, de sûr, tu ferais une omelette. » « Oui !» elle dit quoique tard. Elle avait posé la bougie sur la table. Olivier regarda le compagnon. Non pas Rogotaz, la bougie tremblait, l'autre avait de la boue sur le visage et de grands yeux troubles. La poule, dormir, dit la poule. L'omelette était toute grasse et épaisse au plein de cette large assiette jaune, ça bavait sur la table, la vapeur étouffait la bougie. La poule dormait étendue par terre de tout son long. « Qu'est-ce que tu as là ?» demanda le capitaine. Olivier regarda sa manche gauche. « C'est du sang, tu es blessé ?» « Non, » dit Olivier, « c'est là-bas, au tunnel, Marois qui s'est vidé sur moi, la moitié de la tête. Enlève-moi ça. » Le capitaine se baissa pour renifler l'omelette à pleine moustache. « Mettez la boîte devant la bougie, » dit la femme, « des fois qu'on verrait la lumière par le joint des volets. Arrangez bien l'obscur en direction, mes hommes. » Le capitaine cligna de l'œil, « T'as pas un peu de schnick, du ketch si tu veux. Apporte. » Elle apporta un cruchon de terre. « Si tu bois tout, mon homme. » Elle était pieds nus. Elle dansait lentement d'un pied sur l'autre pour le froid des dalles. « Tu veux plus rien ? Je vas à la couche que ma fille a froid, toute seule, débrouille-toi. » Le dos contre la chaise, Olivier rota un rot puissant. Il avait la bouche pleine d'une odeur de beurre et d'herbe cuite. Il se sentait maintenant lourd et solide au beau milieu de la vie. Le capitaine avait allongé ses jambes sous la table. « Un peu de schnick, » il dit. « Non, j'aime mieux pas, » dit Olivier. Il goûtait de toute sa langue ce goût vert de l'herbe, il s'emplissait la tête. « Dormir, » il dit. « Chabran, » dit le capitaine, « c'est beau d'être jeune, mon gars, tu connais pas ton bonheur. Dors, abruti. » Il souriait doucement en regardant Olivier qui ramassait sa capote. Elle pesait du côté gauche et la manche était raide maintenant. Olivier s'allongea par terre contre la poule, dos contre dos. Il sentait l'autre qui respirait là contre lui. Rogotaz, il pensait. Et les autres? Il repoussa doucement cette manche de capote raidie. Il s'éveilla. Le capitaine était toujours à la table. La bougie avait baissé. La boîte, la bouteille, le cruchon, le dossier d'une chaise haussaient de grandes ombres tremblantes. Le capitaine parlait. Il releva lourdement son bras droit qui pendait au long de lui. Il fit le geste machinal de saluer. « Deux de la quatrième, et moi trois, mon colonel, 20 en tout. Toute la compagnie est là, mon colonel. » De son bras lourd de fatigue et d'alcool, il montrait la chambre vide et les grandes ombres, près du vieux cheval où se cacher. Elle court et tout est contre elle. Son pied ne connaît plus ni l'air, ni le pavé des cours, ni cet abord de la fontaine, ni ce bout de pré, ni rien. Tout se met à la traverse. Elle trébuche sur les pierres et sa jupe s'enroule dans ses jambes. Où se cacher? Non, on ne peut pas supporter ce vieux Jérôme qui pleure en regardant ses mains, tout ce visage de terre avec ses grands sillons de vieillesse et des anciennes douleurs, tout ce visage de terre avec ce lichen des vieillards, et tout ça mouillé avec de grosses larmes blanches. Ses lèvres qui tremblent, ce menton tombé et qui ne peut plus remonter pour fermer en dedans et la salive et les pleurs, et ce gémissement d'homme fini. Et puis si ça n'était que ça, mais il est là et en pleurant, il regarde sa grosse main droite toute déformée. Non, elle s'était cachée la tête dans son tablier et elle pleurait là aussi, mais d'un coup ça n'a plus été possible. Partir, non. Se cacher, s'en aller dans quelque coin, comme une bête, se rouler par terre, se faire petite dans un trou de terre et rester là, Restez là entassé, viande, larmes, douleur et tout. Julia pousse la porte de l'étable. Le vieux cheval tourne la tête. Ce n'est pas son heure d'herbage. Il regarde la femme. Pousse-toi, dit Julia. Elle se glisse contre le cheval. Elle va au fond sous la mangeoire. Elle se couche là, dans la paille, dans le chaud, dans l'humain de cette ombre, de cette odeur, de cette chaleur. Il y a le petit clic-clic de la chaîne et le sabot qui tape doucement dans la paille, là près du vieux cheval. Alors, comme ça, on a coupé le bras du Joseph, le droit. C'est fait, ça n'est plus une chose à faire, c'est écrit dessus la lettre que c'est fait, le bras, la main et tout.